Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Sagesse du Monde, anciennement Nouvelle Conscience, et oui, des changements pour la rentrée. Nous sommes en compagnie d'Olivier Danès. Bonjour Olivier.
Bonsoir à tout le monde.
Et de moi-même, David Goulois. Nous vous proposons donc une nouvelle émission, toujours une fois par mois, tous les lundis 8h.
Donc, un lundi sur quatre.
Voilà, un lundi sur quatre. Un rendez-vous donc mensuel avec cette nouvelle formule Sagesse du Monde. Olivier et moi, nous vous proposons de partir à la découverte de nouvelles et d'anciennes philosophies, spiritualités, mythologies et de leurs auteurs. On vous propose donc régulièrement de présenter un auteur ou un courant d'idées, de pensées, pour vous familiariser avec, en vous donnant des références bibliographiques si ça vous intéresse. Et tout de suite, d'ailleurs, on vous donne une adresse email si vous voulez soit poser des questions suite à l'émission, ou si vous voulez nous proposer des thèmes ou des auteurs que vous aimeriez voir présentés. Donc en une heure, bien sûr, on a le temps que de présenter l'essentiel, et on va essayer, Olivier et moi, de s'efforcer de vous faire ressortir la substantifique moelle, si c'est possible, d'une pensée, d'un auteur, d'un courant, d'une spiritualité, d'une mythologie. Donc le contact email, c'est le suivant, sagesse au pluriel, @wanadoo.fr. Je répète, sagesse au pluriel, @wanadoo.fr. Alors Olivier, par quel thème allons-nous commencer cette nouvelle émission ?
Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui par une femme absolument extraordinaire, David, qui s'appelle Elena Blavatsky. Elle est d'origine russe, mais on l'appelait Madame parce qu'elle maniait très bien le français. Elle a vécu beaucoup dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis et en Inde. Et les anglo-saxons se plaisaient à l'appeler Madame, Madame Blavatsky. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore, on lui donne encore ce titre de Madame. Madame Blavatsky.
Donc vous l'aurez compris, hein, dans nos thèmes, on s'intéresse aux différentes sagesses, donc avec un S, donc autant les sagesses d'Orient, d'Occident, que les sagesses anciennes comme modernes. Et Madame Blavatsky, justement, on l'a pas choisie par hasard pour cette première émission, c'est qu'elle reflète bien ce pont fait entre l'Orient et l'Occident.
Absolument, elle a, on peut dire qu'elle a rapporté en Occident une sagesse orientale qui avait été complètement perdue de vue depuis très très longtemps, une sorte de doctrine secrète qui avait été éteinte en Occident depuis le 5e siècle, hein, au moment où l'Église chrétienne avait fini par gommer de ses écritures toute la sagesse ancienne, tout ce qui avait précédé en fait. Et voilà, elle a rapporté ça de nouveau en Occident, et elle en a profité aussi pour réveiller toute cette sagesse en Orient, puisque en Orient, c'était aussi en Inde ou en Chine ou dans ces pays-là, les traditions religieuses commençaient à être aussi assez poussiéreuses, disons.
Alors, pour bien présenter la pensée de Madame Blavatsky, on aura bien assez de... Enfin, il nous faudra bien deux émissions, donc c'est ce qu'on a prévu, une première partie aujourd'hui. On ira jusqu'à la parution de son premier livre et de ses idées, d'ici dévoilées, jusqu'à son départ en Inde. Et on finira l'autre émission et on parlera plus dans le détail de son livre peut-être le plus connu, La Doctrine Secrète.
Voilà. Alors, Elena naît en 1831, donc 19e siècle, en juillet en Ukraine. Donc, imaginez un petit peu, si c'est possible, d'imaginer l'Ukraine en 1831. Elle est d'un père qui est militaire, qui est colonel, et d'une mère qui est issue de la haute aristocratie russe. Alors, elle va connaître la vie des nobles de l'époque. Elle va, très petite, manifester des capacités assez étonnantes. Que à l'époque, il faut se replonger dans l'époque. À l'époque, on appelait ça de la possession, c'est-à-dire que la chrétienté était très très implantée en Occident, et les personnes qui avaient comme ça des manifestations, des choses bizarres qui leur arrivaient, des prémonitions, la capacité de voir ce qui se passait dans la tête d'autrui, la capacité de quelquefois manifester involontairement des phénomènes, eh bien on disait qu'ils étaient possédés. C'était avant même que le spiritisme commence à se développer en Occident, parce qu'avec la venue du spiritisme au milieu du 19e siècle, eh bien l'interprétation qui était donnée à ces phénomènes, c'était de dire que ces personnes étaient médiumniques.
Voilà, et un des premiers combats de Madame Blavatsky, ça va être de démonter l'argument selon lequel les spirites entreraient en contact avec les âmes des défunts. Selon elle, les spirites rentraient en contact avec des sortes de restes subtils, qu'elle appelait des coques astrales, donc des forces sur des plans pas très élevés, et donc en fait une mémoire tout simplement, plus qu'une âme. Donc ça a été déjà, on a un peu idée du travail qui va être celui de Madame Blavatsky, ça va être de détruire certaines fausses pensées, de régénérer divers courants spirituels, ce qu'elle va faire vraiment d'une façon très intensive, et donc aussi de se faire quelques ennemis, en l'occurrence dans les cercles spirites de l'époque.
Voilà, mais ça c'est bien plus tard, David. Donc, enfant, 7-8 ans, elle est toujours malade, très très malade, moribonde. Elle passe à côté de la mort plusieurs fois. C'est une enfant somnambule. Alors, elle a des gouvernantes. Hein. Dans ce milieu-là, on a des gouvernantes. Alors, une française, c'est là qu'elle a vraiment appris très bien à parler le français. Puis, une gouvernante anglaise. Elle a eu quantité de nourrice. Les soldats de son père prenaient soin d'elle. C'était une vie aussi de famille de militaires. Hein. Ils étaient établis au sud de l'Ukraine, sur le Dniepr. Et puis, à 11 ans, sa mère décède, meurt de la tuberculose. À ce moment-là, Elena est confiée à ses grands-parents, qui vivent, eux, plus vers l'Oural, plus vers l'Est. Ils vivent sur les bords de la mer Caspienne. Et elle se retrouve dans cette famille de hauts nobles russes. Lui est gouverneur, donc son grand-père maternel, hein, est gouverneur civil d'Astrakhan, hein, donc sur la rive nord-ouest de la mer Caspienne. Alors, Elena est une sorte de garçon manqué.
Un cosaque, hein.
Oui, tout à fait. Elle vit en compagnie des chevaux ou bien des soldats. Elle fait des grandes virées dans la steppe. Elle raconte qu'elle ira même avec un de ses oncles au-delà de l'Oural. Elle ira jusqu'à Semipalatinsk, c'est-à-dire aux abords de la Mongolie. Et c'est là qu'elle rencontrera donc des enfants, des lamas et des tibétains.
Alors, ce qu'on retrouve tout de suite dans le caractère de Madame Blavatsky, c'est une dureté militaire, en tout cas une dureté qui l'entoure, une dureté naturelle qui l'habite, et elle incarne en fait une sorte de déesse, de grande image de pouvoir, de puissance, autant par sa pensée que par sa présence, son regard, l'intensité de ses paroles aussi. Donc ça va habiter Madame Blavatsky toute sa vie, et aussi ce goût de l'aventure et ce côté casse-cou un petit peu.
Et c'était vraiment source d'étonnement pour tous ses proches, à la fois les gens de sa famille. À l'époque, les gens écrivaient beaucoup leurs journaux intimes, hein, et donc c'est comme ça qu'on a pu reconstituer sa vie. Et les gens de sa famille attestent de cette précocité, enfin du caractère totalement étonnant de cet enfant. Et alors, c'est une enfant très vive, extrêmement douée. Elle est très hardie. Elle n'a peur de rien, en fait. Elle peut aller. Elle est très très spontanée, jusqu'à aller dans des grandes colères qui peuvent aller jusqu'à la convulsion.
Ça, c'est le côté slave. Hein.
Elle est très, oui, mais c'était perçu comme quelque chose, comme un enfant extraordinaire par d'autres personnes qui étaient slaves aussi. Il y avait quelque chose de très fort, peut-être pas excessif, je sais pas, peut-être excessif dans sa personnalité aussi. Elle était extrêmement généreuse. Elle était beaucoup plus contente d'essayer d'aller jouer avec les enfants du peuple, comme on disait à l'époque, plutôt que de rester avec ses cousins ou cousines. Elle pouvait arriver à être violente, hein, injuste éventuellement, mais elle était totalement incapable de méchanceté et elle était totalement sans rancune. Donc casse-cou, comme tu disais, elle se sauvait, elle se cachait dans les catacombes, elle était complètement indisciplinée, elle mentait effrontément à ses professeurs. Et puis par contre, elle avait des capacités d'apprentissage phénoménaux, une capacité de concentration, une capacité de lecture étonnant.
Alors, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que on n'a pas pris Madame Blavatsky par hasard. C'est que elle est considérée dans les cercles ésotériques comme vraiment l'instigatrice de ce nouveau mouvement, hein, l'ancienneté du Nouvel Âge, c'est-à-dire une sorte de renaissance de tous les courants spirituels. Elle est l'incarnation de la grande occultiste et elle est considérée comme quelqu'un de très évolué dans les milieux ésotériques. Et on pense même, vous trouvez ça dans les livres d'Alice Bailey, on vous parlera d'Alice Bailey, elle est considérée comme la réincarnation de l'âme qui fut Cagliostro, un grand occultiste ayant voyagé dans toute l'Europe. En tout cas, on trouve beaucoup de points communs, non seulement au niveau de la physionomie, mais aussi de la vie de ces deux grands personnages.
Je pense qu'il fallait effectivement, pour faire le travail qu'elle a accompli, hein, qu'on va expliquer au cours de l'émission et de la prochaine, il fallait effectivement une personne d'un fort, fort, à la fois niveau de conscience, bien sûr, mais aussi caractère. Hein. Elle disait, alors la particularité aussi, elle disait être entourée d'êtres. Et on la retrouvait quelquefois dans une pièce comme si elle était en transe, hein, comme si c'était une voyante en transe. Elle était capable d'émettre des prédictions. Elle avait un fort contact avec la nature. Elle était capable d'endormir des pigeons, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, elle disait que depuis sa tendre jeunesse, elle voyait à côté d'elle la figure majestueuse d'un hindou avec un turban. Et qu'elle l'appelait à l'époque, donc elle était encore enfant, elle l'appelait son protecteur.
Il y a une petite anecdote d'ailleurs sur une chute de cheval, hein, où elle dit avoir été sauvée par ce protecteur. Elle montait régulièrement à cheval et elle tombe et son pied se fait prendre dans les rênes. Et au lieu d'être traînée sur des mètres et des mètres, elle se trouve soulevée de terre et le cheval finit par s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin. Et elle dit souvent donc avoir senti la présence protectrice et aussi inspiratrice de celui qui avait appelé plus tard son maître.
Oui. À 13 ans, en 1844, son père l'amène à Londres. Son père avait pour affaire besoin d'aller à Londres parce qu'Elena avait des talents de pianiste. Elle avait rencontré en Russie Clara Schumann et Robert Schumann en 1841 et qu'il l'avait recommandé à un très très grand professeur de piano de Londres. Et donc elle s'est même produite, à 13 ans, elle se produisait devant des assemblées pour jouer du piano.
Et elle alors, s'entraînait peu.
Alors elle s'entraînait très peu, ça qui est étonnant, et son entourage était très surpris de ses capacités. Hein. Alors pour montrer encore son caractère, elle voulait monter à cheval, mais son père lui a interdit de monter à califourchon comme elle faisait dans les steppes russes, parce qu'évidemment en Angleterre une femme ne pouvait pas monter à califourchon.
C'est l'époque victorienne.
Hein, et ben voilà.
C'est tout ça. Hein.
Et donc elle en fait une crise d'hystérie, elle tombe malade tellement que son père décide de rentrer en Russie et ils repartent par la France et l'Allemagne. Il faut se rappeler qu'à l'époque on voyageait lentement avec des attelages à chevaux, etc. Et puis, il lui arrive quelque chose d'assez encore particulier à l'âge de 14 ans, quelque chose qui en fait a commencé à l'âge de 14 ans, alors je me trompe, qui a commencé à l'âge de 9 ans, et qui a duré jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans. Elle était en contact quotidien avec l'esprit d'une dame. Alors, c'était une dame d'origine allemande, la dame lui parlait en allemand, Elena ne connaissait pas l'allemand, mais écrivait ce que la dame lui disait. Et ça a duré pendant 6 ans. Et comme je disais, à cette époque-là, le spiritisme, comme ça a été connu plus tard avec les livres de Kardec, hein, n'était pas encore répandu, donc on pensait qu'elle était possédée. Et cette dame qui s'appelait Les Bonnedières, enfin je sais pas comment on prononce son nom, racontait sa vie en gros. Et sur 6 ans, des quantités de pages ont été écrites par Elena, et certains ont essayé de vérifier. Et tout a pu être vérifié comme étant exact. Par exemple, cette dame avait un jour signé une pétition pour le tsar. Eh bien, l'oncle d'Elena a retrouvé dans les archives du tsar à Saint-Pétersbourg la pétition en question avec le bon numéro d'enregistrement, la bonne date, la bonne écriture, parce qu'Elena, quand elle reproduisait ce que disait cette dame, elle reproduisait comme une photocopie, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire c'était une sorte de facsimilé de la pétition en question. Et ce qui s'est passé et qui devient intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, par hasard, elle a rencontré un soldat qui travaillait avec son grand-père. Et ce soldat avait sur sa table un médaillon. Et sur ce médaillon, elle a vu le visage de cette femme, Ledon Derf, avec qui elle était en contact depuis 6 ans. Alors elle a été très surprise et elle a appris de ce soldat que cette femme n'était pas du tout morte, mais qu'elle était bien vivante. Donc ça a été une sorte d'apprentissage phénoménal de la fausseté qu'il pouvait y avoir à croire que comme croyaient les spirites, ouais, qu'elle était en contact, que les médiums en fait étaient en contact avec l'esprit des morts.
Alors voilà, alors dès le début, dans son premier grand livre, Isis dévoilée, Madame Blavatsky explique qu'il y a une substance qu'on appelle en Inde l'akasha, qui est littéralement l'espace, à divers niveaux, à un niveau énergétique, émotionnel, mental, sur lequel se dépose, s'enregistre toutes nos pensées, tout ce qui se vit, et qu'en fait on peut très bien entrer d'une certaine manière en contact avec ces annales akashiques, comme on a appelé ça, à différents niveaux, et y lire d'une façon plus ou moins déformée, ma foi, mais y lire des phénomènes qui se sont passés, qui sont en train de se passer ou qui sont sur le point de se passer. Donc elle a dans cette expérience donc fait, comme tu dis, l'expérience de la fausseté, et c'est d'autant plus intéressant chez elle que elle va développer non plus après une médiumnité dont elle va plutôt se défendre, essayer de guérir. Elle le considère comme un mal physique, hein, comme un mal physique, pardon. Elle va plutôt, elle, développer une haute forme de contact avec ce fameux maître, ce fameux Mahatma, comme elle l'appelle, qui veut dire une grande âme, un grand esprit en Inde. Et elle va développer un contact de télépathie à un niveau très supérieur. Et tu vas nous parler justement de ces voyages après qui vont commencer et qui vont, dans lesquels elle va aussi commencer un entraînement particulier.
Voilà, et donc elle se prépare, elle lit, étant enfant, elle lit toute la bibliothèque de son arrière-grand-père, qui était quelqu'un de versé dans l'alchimie, la magie, les sciences occultes.
Chose très courante, non seulement dans l'aristocratie, mais encore plus en Russie, où il y a un goût assez prononcé pour ces matières.
Et donc elle a toujours complètement horreur des mondanités. À un moment, on veut commencer à la présenter à des jeunes garçons. Elle doit aller à des soirées. Alors elle est capable, Elena, de plonger une jambe dans une bassine d'eau bouillante, suffisamment pour être brûlée, à tel point qu'elle ne pourra pas sortir de chez elle pendant 6 mois, pour dire son caractère.
Donc à 17 ans, elle est promise pour ce monsieur Blavatsky.
Alors voilà, alors là, on n'a pas vraiment su pourquoi elle avait épousé ce monsieur Blavatsky. On pense que c'est par défi envers sa gouvernante qui lui avait dit, avec ton caractère, tu trouveras jamais à quelqu'un pour à épouser. En fait, ce monsieur avait plus de 40 ans, elle avait 17 ans, elle n'avait pas encore 18 ans. Mais lui est vice-gouverneur de la province des Rivans, donc c'est dans le Caucase. Alors le mariage a lieu, elle se rend compte à ce moment-là visiblement que c'est pas ce qu'elle voulait faire, et elle s'enfuit à cheval chez ce monsieur après 3 semaines de vie non conjugale
et non consommée.
Elle va chez ses grands-parents qui sont un peu plus au nord dans le Caucase. Alors conseil de famille. C'est quelque chose qui était marquant, hein, chez les nobles à l'époque. C'était vraiment quelque chose qui ne se faisait pas. Son cousin, le comte Witt, qui a été premier ministre de Nicolas II par la suite, a même consigné ce fait dans ses mémoires pour dire à quel point c'était elle s'est quand même fait mal voir dans sa famille. Alors, on décide de la renvoyer chez son père. Elle a à peine 18 ans, mais son père était à Saint-Pétersbourg, 2000 km au nord. Donc, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle traverse la mer Noire du Caucase jusqu'à Odessa, et qu'à Odessa, elle reprenne le train pour Saint-Pétersbourg. Et dans cette traversée de la mer Noire, elle s'arrange à un certain moment pour demander à ses serviteurs qui l'accompagnaient de descendre à terre pour trouver un logement. Enfin, elle trouve un prétexte, mais elle avait soudoyé le capitaine du bateau pour qu'il remette l'ancre. Il repart tout de suite vers Constantinople où il devait aller. Et voilà comment elle se retrouve à Constantinople. Elle s'habille en garçon. Parce qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas du tout voyager seule sans s'exposer enfin, c'était impossible. Et donc, elle se déguise en garçon. Et comme elle a un physique assez masculin, en fait, hein, quand on voit ses photos, c'est quelque chose qu'elle aura pu garder pendant longtemps. Et son idée était de rester partie de Russie pendant 10 ans, puisque au bout de 10 ans, son mari ne pouvait plus, n'aurait plus été en position d'exiger qu'il reprenne la vie commune. Alors, elle restera en contact avec seulement son père, hein, qui lui continuera à lui envoyer des subsides pendant toute sa vie, pendant toute la vie du père, et qui lui permet, Elena, de pouvoir voyager, de pouvoir se loger quand elle va quelque part, etc. Alors elle va en Égypte, Alexandrie, Le Caire, où elle passe 3 mois. Alors, des prodiges, elle commence à être en contact et à être initiée à certains prodiges, à l'hypnose, au pouvoir de l'esprit. Elle rencontre des Coptes.
Alors, les Coptes, pour un petit peu replacer, c'est vraiment les descendants des anciens gnostiques égyptiens traversés dans les premiers chrétiens traversés dans l'ésotérisme gréco-égyptien, en fait, hein. Donc très instruit, et donc elle va fréquenter les Coptes, elle va aussi fréquenter les Druzes, si
plus tard dans sa vie, oui.
Plus tard, elle va vraiment aller un petit peu partout, hein, au Tibet, bien sûr, on va en parler, en Inde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, enfin, elle fait peut-être même 2 ou 3 fois le tour du monde répartie sur plusieurs années. Donc elle se forme d'une certaine manière, elle va vraiment sur les lieux, rencontrer les gens et aussi pratiquer auprès d'eux.
Alors ensuite, elle part à Paris où commencent à fleurir les pensées spiritualistes. Hein. C'était l'époque de Cagliostro, de Mesmer, le spiritisme, les tables qui tournent, etc. Donc dans les salons parisiens, on dialoguait avec les esprits, tels qu'on le pensait, hein, ou avec l'esprit des morts. Un petit peu plus tard, en 1857, sortira le livre de Kardec, le livre des esprits. C'était une période importante, ce milieu du 19e siècle, pour la spiritualité, parce que c'était vraiment une sorte de brèche dans le matérialisme et le scepticisme spirituel ambiant de l'époque, hein. Donc, 1850, elle est à Paris, elle est initiée à la transe médiumnique. Et puis elle repart pour Constantinople. Et puis c'est difficile de la suivre parce qu'elle brouille ses pistes. Elle veut pas être retrouvée par son mari. Donc elle fait poster ses lettres d'autres endroits, etc. Et ses biographes ont eu bien du mal. Et puis fin 1850, elle se retrouve de nouveau à Londres. Et là, elle croise son maître. Le protecteur, mais cette fois-ci, le protecteur qu'elle voyait, hein, en vision depuis qu'elle était petite fille, cette fois-ci, elle le croise en chair et en os, je dirais, à Hyde Park, et elle le rencontrera quelques jours plus tard, en fait, le jour même de son 20e anniversaire.
C'est en 1851.
Voilà.
Et donc, c'est à l'occasion de l'exposition universelle, semble-t-il, où il y a une délégation d'hindous, et il y a ce grand indien qui dépasse de plus d'une tête la plupart des convives, et qui attire beaucoup l'attention, et on le surnomme même le misanthrope, parce qu'il évite un peu les contacts mondains, et Blavatsky le reconnaît, et va donc pouvoir même ensuite avoir un rendez-vous avec lui à Hyde Park, je crois, et c'est là où il est question du travail que son maître, celui qu'elle va reconnaître comme son maître, lui demande.
Voilà, il va aussi lui demander de se préparer à ce travail et donc d'aller au Tibet. C'est comme ça que elle va continuer ses voyages et jusqu'à parvenir à aller au Tibet.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Madame Blavatsky a été beaucoup décriée, mais on vous recommande le livre Elena Blavatsky ou la réponse du Sphinx. On vous en parlera en fin d'émission, de Noël Richard Naffar, qui est, à mon avis, en français, vraiment le livre le plus complet sur Madame Blavatsky, et qui remet beaucoup les pendules à l'heure et qui apporte beaucoup de preuves de véracité, entre autres par exemple de ses voyages, qu'elle a réellement voyagé, chose qu'on a mis aussi en doute. Donc on vous reparlera de ce livre. Vas-y Olivier, continue.
Alors de Paris, elle part aux USA, au Canada, où elle rencontre les Peaux Rouges au Québec. Elle est toujours à la recherche de la spiritualité ancienne. Hein,
initiatique, oui.
Oui. Alors elle traverse les Grandes Plaines, elle rencontre les Mormons. Elle descend à la Nouvelle-Orléans. Alors là, elle a des essais avec le vaudou.
Elle a vraiment tout essayé. Et
oui.
On peut pas dire qu'elle est vraiment passée.
Et alors, elle raconte une intervention de son protecteur, hein, qui lui dit attention, le vaudou, non, arrête, parce que le problème de travailler avec les esprits, c'est que deux choses l'une, hein, soit c'est vous qui maîtrisez les esprits, soit c'est eux qui vous maîtrisent, hein, et donc c'est pas du tout recommandé en fait. Donc elle arrête, elle part au Texas. Il lui arrive des choses, des blessures physiques. Alors on pense qu'elle a été prise dans des échauffourées, on ne sait pas exactement. Elle est toujours déguisée en homme. Hein. Elle descend au Mexique et au Pérou, où là, elle va rencontrer des chamans et des gens qui lui montrent
les fameux trésors des anciennes civilisations Inca, Elle va même donner une sorte de plan sans aller dans le détail, mais elle donne encore des informations qui montrent vraiment que quelque chose s'est passé et qu'elle a vraiment été en contact avec ces peuples. Donc en fait, elle a fait vraiment le tour de la Terre. Elle a vraiment rencontré pratiquement toutes les traditions du monde entier.
Cordillère des Andes, les Incas, et d'ailleurs elle y reviendra, là on est toujours en 1851, 52, 53, en 54 elle remonte à Londres, elle rencontre de nouveau son maître, alors qu'elle appelle Moria.
On peut dire un petit mot peut-être sur ce nom, c'est que donc il faut expliquer aussi ce qu'est un maître en fait, ce que elle entend par le mot maître en fait, donc ce n'est pas un esprit. Elle, ce qu'elle appelle esprit, en fait, elle va en fait beaucoup, Madame Blavatsky, codifier et structurer un peu toutes ces choses qu'on découvre ou qu'on redécouvre à l'époque. Les esprits sont tout simplement des forces, il y a des forces de la nature et des forces psychiques, involutives, des forces donc qu'il vaut mieux se protéger plutôt que d'essayer de rentrer en contact. C'est pourquoi elle voit la médiumnité comme un danger, c'est-à-dire l'idée de se mettre complètement passif et en contact avec ces forces qui sont pas très évoluées, ma foi. Alors que elle, le contact avec son maître, c'est un être qui, selon elle, fait partie d'un groupe d'êtres entièrement réalisés spirituellement, qui a dépassé même le niveau de certains saints, yogis, de grands prophètes et autres des différentes traditions, et qui ont une capacité de maîtrise totale sur eux-mêmes. Et sur leur environnement, et elle va être instruite donc par ce maître Maurya, qui se prononce en inde Maurya, qui est en fait un descendant de la grande famille des Maurya, qui a en fait qui était une famille bouddhiste, mais en Inde, qui ont accepté la philosophie bouddhiste et qui ont vraiment été à un moment. C'est l'époque d'Alexandre le Grand, pour que les gens en sachent un petit peu, hein. C'est vers moins 300 et quelques avant Jésus-Christ. Et lui, donc, serait un prince Rajput descendant de cette famille-là, qui aurait renoncé à tous ses biens, toute sa fortune, qui aurait étudié à fond les arts occultes et qui aurait atteint l'illumination. Et donc, qui est son maître d'enseignement, de prédilection.
Donc elle a des conversations avec lui, elle n'en dit pas grand-chose, sauf que c'était des conversations graves et sévères, c'est-à-dire ça devait être sérieux. Hein, et donc ce maître lui enjoint de le rejoindre au Tibet.
Alors dans la tradition ésotérique, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou si vous voulez découvrir un petit peu, c'est que les énergies sont classées en sept groupes, on parle de rayons, et donc le premier type d'énergie, c'est une énergie qu'on appelle énergie de puissance, de pouvoir, de volonté spirituelle. Et elle et ce Maurya se trouvent sur ce rayon-là, sur ce département-là d'énergie. Donc pourquoi on trouve dans sa vie toujours ce lien avec cette dureté, cette force, cette puissance, cet intérêt pour l'occultisme aussi, le lien aussi avec le monde politique et aristocratique qu'on aura beaucoup dans sa vie. Et donc c'est un ancien prince, hein, ce maître. Donc on retrouve tous les ingrédients et surtout le fort occultisme de cet aspect-là.
Mais c'est la guerre de Crimée, 1854, entre la Russie et la Grande-Bretagne. Donc elle doit quitter la Grande-Bretagne, elle part à New York, à Chicago, elle repart dans l'Utah, dans l'Ouest américain, les Grandes Plaines.
C'est reparti.
1855, le Pérou, le Mexique, les Caraïbes. Et puis elle décide de partir en Inde, cette fois-ci, comme on lui avait demandé de le faire. Et elle part par le Cap, Ceylan, Bombay, où elle arrive à bord d'un voilier en 1855. Les voyages à l'époque, c'était pas un avion et quelques heures de vol, c'était des dizaines et dizaines de jours dans des conditions difficiles. Et une fois arrivée à Bombay, elle voyage vers le nord. Ce sont des voyages initiatiques qui sont faits cette fois-ci avec son maître qui est là physiquement présent avec elle et qui lui manifeste des phénomènes extraordinaires. Elle visite des lieux sacrés, des lieux secrets.
Oui, c'est des lieux qui n'étaient pas encore découverts. À l'époque, on a des temples, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, Bombay, Karli, on a des très anciens temples gravés dans la pierre, certains étaient cachés par la végétation, c'est des choses qu'on n'a pas forcément encore découvertes, et elle trouve aussi des lieux de retraite, de méditation, où elle va aussi pratiquer, et elle va d'ailleurs annoter ça, et qu'elle va mélanger avec un deuxième voyage, fait avec son ami le colonel Dolcott, et elle va créer des nouvelles qu'elle vendra en Russie. Des récits de son voyage, et si ça vous intéresse, vous avez ce livre de Madame Blavatsky qui s'appelle Cavernes et les jungles de l'Hindoustan. Un livre passionnant sur l'Inde et l'Inde secrète, l'Inde ancienne.
Elle est témoin de pouvoirs yogiques. Et tout ça, c'est 50 ans avant Alexandra Davinil.
Voilà. En fait, et là, on saura aussi qu'Alexandra Davinil sera en fait théosophe. C'est-à-dire qu'elle appartiendra à l'ordre, à l'école ésotérique fondée par Madame Blavatsky, et qu'elle va en fait largement s'inspirer de ses notes, de ses voyages, des traces préparées par Madame Blavatsky.
Alors elle repart, Madras, Java, où elle est envoyée par son maître, on ne sait pas pourquoi, le Japon, elle sera vue au Japon, au Siam, en Chine, et puis elle revient en Europe, en Allemagne, en France, il paraît qu'elle a même contribué aux fresques des appartements privés de l'impératrice Eugénie, hein, l'épouse de Napoléon III à Paris, en 1858. Noël 1858, ça fait 10 ans qu'elle est partie, donc elle revient en Russie, elle débarque chez la famille, là où habite sa sœur. Elle a une sœur cadette qui est devenue veuve et qui vit chez sa belle-famille, pas très loin de Saint-Pétersbourg. Et elle débarque là le soir de Noël. Et dès le lendemain, commence à se produire quantité de choses étranges dans la maison qu'on attribue au pouvoir médiumnique d'Elena. Mais elle a 27 ans, elle affirme à ce moment-là que depuis l'âge de 25 ans, elle a fait ce qu'il fallait pour ne plus être médium, en fait. Hein, comme tu disais, elle considérait que c'était pas un bien du tout d'être médium. Et que les phénomènes qui se produisent sont dus à son maître. Hein, donc des coups frappés, des changements de poids d'objets. Hein, elle disait à son cousin, tiens, soulève la table là, et une petite table en bois de rien du tout, que le cousin est tout d'un coup incapable de soulever tellement il est devenu lourd. Enfin, plein de choses comme ça qu'elle a appris au Tibet et qu'elle manifeste autour d'elle.
Donc on va, après la pause, reparler un petit peu, essayer d'expliquer à quoi renvoie dans la pensée de Madame Blavatsky toutes ces manifestations-là. Donc on vous retrouve dans quelques instants après une courte pause. Merci.
Saint-Pétersbourg, elle est chez son père avec sa sœur, Vera. Elle est capable de voir ce qui est écrit dans les lettres qui sont cachetées. Elle est capable de bâtir son arbre généalogique depuis des centaines d'années en quelques peut-être heures de conversation avec son maître, celui qu'elle appelle son maître, et à répondre immédiatement à des tas de questions historiques que ses proches iront ensuite passer beaucoup beaucoup de temps à vérifier et vérifieront.
Donc en fait, on avait dit qu'on essaierait un petit peu d'expliquer le pourquoi de ces phénomènes qui vont l'entourer jusqu'à la fin de sa vie et dont Madame Blavatsky va user pour essayer de défendre. Alors on peut considérer ça de façon adroite ou maladroite, c'est un peu difficile de juger maintenant, mais pour défendre non pas la cause spirit qu'elle va plutôt essayer de détruire, en tout cas de démonter dans ses principes, mais de défendre l'idée de l'existence de ces êtres, les maîtres de sagesse, elle va les appeler comme ça, qui sont capables, qui ont une totale maîtrise en fait des lois de la nature, des lois de la matière, par leur pensée, par leur maîtrise d'eux-mêmes. Et elle va essayer de défendre leur cause de cette façon-là, plutôt que d'essayer de se mettre en avant jamais, elle les attribue jamais à elle-même, alors qu'on apprend en fait par la suite qu'elle en a manifesté beaucoup elle-même et très peu, enfin beaucoup moins de ses maîtres à travers elle directement. Mais c'est sa manière à elle, son peut-être sa, son engouement extrême, comme tu le disais, pour essayer d'éveiller les gens de l'époque à une autre réalité et à ses capacités insoupçonnées de l'être humain.
Alors, elle redescend vers le Caucase, où étaient ses grands-parents. Elle a, à ce moment-là, on peut le signaler, un fils adoptif, un enfant malingre, bossu, dont elle a caché l'origine, mais qui n'est pas d'elle, hein, et qui... C'était un grand cœur aussi, hein, Elena Blavatsky. Elle était capable de... Quand elle avait de l'argent, elle était capable de tout donner le lendemain à la première personne venue. Hein.
En fait, il semblerait que ce soit pour cacher une histoire dans les hauts lieux aristocratiques de la Russie, et que pour des raisons qu'on ignore, qu'elle accepte de prendre sur elle d'adopter ce fils qui n'est pas le sien.
Oui, mais moi je pense qu'elle l'a fait pour cet enfant et non pas pour pas cacher quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense, oui, que c'était son cœur vis-à-vis de cet enfant qui allait peut-être être abandonné ou pire. Elle descend jusqu'au bord de la mer Noire et là, bah, c'est une femme qui vit seule. Donc, elle essaye de vivre aussi financièrement et elle se lance dans le commerce. Elle pratique l'écriture directe. Elle lit dans la pensée des gens. Elle a un moment un accident de cheval très grave. Elle tombe dans le coma. Elle est en transe. Elle est considérée comme quasiment mourante et elle a une expérience phénoménale avec son maître qui en fait l'a guérie et elle est miraculeusement guérie.
Elle a été annoncée morte plusieurs fois par ses médecins.
Oui, par la suite encore, quand elle sera aux États-Unis, par la suite on verra ça. Oui. Alors après elle continue ses voyages, Italie, Serbie, Proche-Orient, Grèce, je fais que citer, ça serait trop long d'aller dans le détail, Égypte, Syrie, Perse, elle voit les Druzes. Hein.
Oui, oui. Alors les Druzes, on peut dire un petit mot, ce sont des gens qui, donc dans Liban, Syrie, qui seraient un peu les héritiers. Il mélange en fait, il y a une sorte de carrefour des trois grandes religions monothéistes, mais d'un point de vue ésotérique. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps kabbalistes, donc la science ésotérique cachée du judaïsme. Il y a des gnostiques ou des anciens esséniens qui, dans des temps reculés, se seraient réfugiés au Liban, en Syrie. Et ils ont en même temps des soufis. Ils ont aussi une tradition soufie très grande. Donc, il semble être une sorte de synthèse. Elle en parle toujours avec beaucoup d'éloges, en tout cas à l'époque, de ces groupes dans lesquels elle, en tant que femme, va être acceptée et initiée.
Ouais. Elle continue les Kurdes, les Mazdéens, et elle va jusqu'au Tibet, elle va dans les lamasseries, elle est confrontée, elle témoigne de pouvoirs magiques. Et elle apprend une langue qui s'appelle le Sanzar. David, qu'est-ce que c'est ?
Alors Sanzar, c'est pas du tout une langue reconnue ni même citée, parce qu'elle est en fait complètement ignorée dans les mouvements orientalistes. Il semblerait que ce soit une langue ancienne, selon Madame Blavatsky, qui était la langue commune à tous les initiés du monde entier, donc une langue pré-indo-européenne, parce qu'on serait tous des descendants des Indo-Européens, donc une langue qu'on appelle parfois Atlante, en tout cas pré-arienne, et qui serait donc très ancienne et que Madame Blavatsky maîtriserait. Et on en a la preuve quand, par ses contacts avec le Panchen Lama du Tibet, on lui subtilise des mots qui sont écrits dans cette langue et qui seront même à l'époque une des raisons un petit peu de la calomnie envers elle, où elle est considérée comme une espionne russe, utilisant un code secret, alors que c'est une ancienne écriture idéographique et pas phonétique, que elle connaît et que, comme par hasard, le Panchen Lama du Tibet connaît. Alors le Panchen Lama, pour faire un peu la différence avec le Dalai Lama, c'est le chef temporel. Maintenant, le Dalai Lama joue aussi un rôle de chef spirituel pour le Tibet, parce que le Panchen Lama a été pris en otage par les Chinois, mais à l'époque, depuis l'époque de Tsongkhapa, qui est le grand réformateur du bouddhisme tibétain au Moyen-Âge, il y a une lignée de chefs initiatiques qui représentent la tradition secrète du Tibet et une tradition ésotérique très poussée à laquelle donc Madame Blavatsky va être initiée, et en l'occurrence aussi cette langue.
Et ce lama, là, le sixième Panchen Lama, dira en 1927, enfin, confirmera vraiment que Blavatsky connaissait cette langue et que ses livres sont bien comment dire, le reflet ou la traduction du bouddhisme ésotérique.
Oui, elle a écrit un livre, d'ailleurs à Fontainebleau, pas très loin d'ici, ça va être La Voix du Silence, qui est une sorte de transcription des préceptes qu'elle va apprendre par cœur au Tibet et qui montre sa grande connaissance du bouddhisme caché, ésotérique, hein, du bouddhisme Mahayana et même Vajrayana, du bouddhisme tibétain. Et en fait, même le Dalai Lama de l'époque a dit, donc celui que nous on connaît, a dit que ce livre avait eu un profond impact dans la pensée bouddhiste et de façon générale dans la découverte de l'Orient, qui est un petit livre que je vous conseille, donc La Voix du Silence, plein de préceptes et de sagesse.
Et donc c'est à cette époque-là, en 1866, qu'elle apprend tout ça, qu'elle prend connaissance de toute cette sagesse. Elle est entraînée à la précipitation, donc la capacité de manifester des choses.
Voilà ce qu'on appelle en sanskrit la kriya shakti, le pouvoir de créer, de produire des choses. C'est-à-dire de matérialiser ce qui est dans sa pensée, de le rendre objectif, manifeste. Alors elle a toujours dit, et ça on a beaucoup de traces de ses récits aussi dans Isis dévoilée, son premier grand livre, elle a toujours expliqué qu'on pouvait agir sur cette fameuse substance dans laquelle tout était inscrit, donc les formes aussi archétypales, les objets, et les matérialiser, les créer, et que la pensée en fait avait un impact direct sur le monde de l'énergie. Elle s'y est entraînée et a décrit beaucoup de capacités surtout développées par des orientaux, hein, soit des moyens orientaux, soit des extrêmes orientaux, gens qu'elle a rencontrés lors de ses voyages.
Voilà, et puis la télépathie aussi. Et en 1867, elle quitte le Népal. Hein, son fils adoptif est malade. Il est en Italie. Elle le rejoint à Bologne. Et elle, malheureusement, il décède. Donc elle fait un vite passage en Russie pour l'inhumer. Et elle revient en Italie où elle se bat aux côtés de Garibaldi, qui était à l'époque en lutte contre le pape, hein, pour l'indépendance de l'Italie et contre les États papaux.
Il est resté le Vatican.
Voilà, et elle reçoit 2 balles dans le corps, elle reçoit 2 coups de sabre, elle se retrouve dans le fossé considérée comme morte, elle est sauvée in extremis parce que c'était par la Croix-Rouge, c'était les débuts de la Croix-Rouge, heureusement. Et donc elle guérit toujours de façon phénoménale et elle repart à Belgrade, à la cour de Serbie, où il lui arrive quantité d'aventures encore, dans les Carpates, Constantinople. Et puis elle retourne encore au Tibet en 1868 et là elle continue son apprentissage, y compris d'ailleurs celui de l'anglais qu'elle maîtrisait très mal.
Beaucoup moins que le français. Hein.
Oui, elle parlait beaucoup mieux français qu'anglais. Oui. Et au total de sa vie, elle aura passé 7 ans au Tibet.
Alors là aussi, ça fait partie des attaques qui sont descendues dans le livre, donc sur sa biographie très très complète. De Richard Naffar.
Oui, tu parles beaucoup d'attaques. De quoi parles-tu, David?
Alors en fait, c'est qu'à la fin de sa vie, enfin même dans la dernière tiers de sa vie, Madame Blavatsky, vu sa grande popularité et les idées qu'elle amène, va se faire des ennemis. On en a déjà parlé dans les milieux spirites. Elle va se faire des ennemis chez les colons britanniques quand elle va être en Angleterre, en Inde, pardon.
Des chrétiens, ouais.
Des chrétiens aussi, mais d'abord des colons eux-mêmes britanniques. Quand ils voient cette dame dire que, en fait, leur culture britannique et même européenne a pour source l'Inde, c'était un pavé dans la mare, c'était quelque chose qu'on considérait les Indiens comme des sauvages à l'époque, hein, qu'il fallait éduquer, à qui il fallait apprendre les bonnes manières et la culture victorienne.
Oui, il faut essayer de se replonger dans la mentalité de l'époque, hein, où il y avait la différence de race était perçue de façon très 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 importante.
Hein. Bien sûr. Et il y avait aussi la peur que la Russie s'en prenne de l'Inde. Hein. Donc les Anglais étaient, c'est pour ça qu'ils l'ont cru comme une
espionne.
Voilà, comme une espionne russe. Et il y avait les chrétiens qui eux essayaient de s'imposer aussi en Inde, qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Et par là même, les brahmanes indiens qui se sont instruits auprès d'elle, qui après ont tout fait pour se débarrasser de celle qui restait quand même à leurs yeux une étrangère et qui donnait la tradition cachée ésotérique de leur pays dans des livres. C'était quelque chose d'inconcevable pour un indien. Donc pour toutes ces raisons, elle a eu beaucoup d'attaques et on a par exemple essayé de nier ses voyages au Tibet et on a fort heureusement des preuves qu'elle a vraiment traversé la frontière, qu'elle a vraiment voyagé.
Voilà, depuis des historiens ont pu...
Qu'elle y a vraiment résidé. et qu'elle a en fait beaucoup travaillé avec trois maîtres spirituels, son fameux maître, le maître Maurya, un autre maître hindou, originaire du Cachemire, qui est de la famille des Koutoumi. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un des Puranas, un des textes anciens indiens, qui parle de la présence de ces deux maîtres, et qui dit qu'un jour ces deux maîtres reviendront dans le monde. C'est le Vishnu Purana, et on parle de Maurya et de Koutoumi. Et un autre maître qui va avoir un rôle très important, qui est un Tibétain, qu'on appelle le maître Jwalkul.
Alors elle a 40 ans, elle a seulement 40 ans après tout ce qu'elle a déjà fait, mais c'est pas fini David. En 1871, elle repart en Égypte, à Chypre, en Grèce. Elle manque de périr sur un bateau qui explose. C'était un bateau qui transportait des passagers, mais aussi de la dynamite, pensez-vous. Et le bateau explose et il y a quelques survivants pleine mer de Méditerranée, et c'est elle. Elle se retrouve à Alexandrie. Et là, elle commence vraiment à chercher comment diffuser tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait. 40 ans, elle a été jusqu'à présent en phase d'apprentissage, et maintenant, elle essaye de voir comment elle va diffuser cette connaissance.
En quelle année, là, ça, Olivier ?
En 1871, elle
D'accord,
a 40 ans.
Vraiment, pile 40 ans.
Et elle crée, pour ça, elle crée une société spirit dans l'espoir d'introduire, donc, dans le milieu spirit,
ces nouvelles idées,
hein. Donc le fait, comme tu disais, que c'est pas forcément les esprits qu'on contacte, mais ça peut être autre chose,
que la pensée a un impact et peut apprendre à maîtriser le corps, enfin le
voilà.
Toutes ces choses.
Alors c'est un fiasco, hein. Ouais, la société en question dure 15 jours parce qu'en fait les médiums, alors elle travaille avec des médiums, elle essaye de démontrer la réalité de ce que vivent les médiums, et parmi les médiums, il y en a aussi qui sont un peu des charlatans, disons. Donc voilà, ça dure 15 jours et elle s'en va, elle part en 1872 au Liban, elle passe l'été ensuite à Odessa de nouveau. Elle part ensuite en Europe de l'Est, elle donne encore des récitals de piano en Serbie, à Londres, à Paris. En 1873, elle passe 3 mois à Paris et tout d'un coup, elle a un message de son maître qui lui dit « il faut partir aux États-Unis ». Et le lendemain, elle se retrouve sur un bateau, un paquebot en partance pour les États-Unis avec juste son billet en poche et pas un sou. C'est pour dire comme elle était capable de réactivité, hein. Elle se retrouve femme seule à l'époque, hein, il faut penser à ça, et elle se retrouve à New York dans un immeuble collectif pour femmes perdues, disons, et elle a 42 ans, il faut qu'elle trouve du travail. Et elle va utiliser ses talents, dessinatrice, elle va écrire des articles pour les journaux, hein, elle a beaucoup voyagé, donc elle écrit des nouvelles qui ont beaucoup de succès. Et c'est le moment où son père décède, donc elle n'a plus de subsides, il faut aussi qu'elle puisse avoir de quoi vivre. Elle va se lancer dans l'agriculture, ça va être un fiasco. Et c'est à ce moment, en 1874, qu'elle va faire une rencontre absolument importante, essentielle dans sa vie. Elle va rencontrer le colonel Olcott.
Voilà, elle le rencontre, je crois, dans le New Jersey. Il y a donc ces fameuses rencontres où... alors lui, est un spécialiste, un grand enquêteur. On l'avait même d'ailleurs... il avait même enquêté sur la mort du président Lincoln. Et donc c'était vraiment quelqu'un de très très pointilleux, précis, exigeant, et il enquête sur toutes les mascarades de spirit, et elle le rencontre dans une grande maison dans laquelle ils vont assister à différents phénomènes, certains vrais, d'autres pas, et on y trouve quand même, si je me souviens bien, les Flammarions, les Curie y sont présents, enfin il faut savoir que...
Conan Doyle.
Voilà, qui lui a beaucoup écrit aussi sur tout ça, et donc elle fait cette fameuse rencontre. Et ça va être son coéquipier de toujours avec qui elle va fonder la société théosophique.
Donc, dans cette maison où ils se rencontrent, apparition d'ectoplasme, images projetées hors de la pensée. Et alors, elle multiplie les phénomènes. C'est-à-dire qu'elle, Olcott se rend compte qu'elle-même produit les phénomènes et elle commence à le faire en public, hein, dans son salon, avec des journalistes, avec des scientifiques à New York, avec des scientifiques d'un certain niveau qui viennent essayer d'étudier le phénomène. Son idée, l'idée qu'elle a derrière la tête, c'est que en produisant ces phénomènes, elle va s'introduire dans les milieux spirites et qu'elle pourra ensuite les éduquer à la réalité de ce qui est vécu en fait. Hein, mais je crois qu'elle se trompe.
C'est une tentative en effet qui n'a pas abouti et au contraire, elle va se diriger vers une autre voie, c'est-à-dire créer vraiment une école, une société, on appelait ça comme ça à l'époque. Hein, c'est pas une société comme on l'entend maintenant, pour étudier tous ces phénomènes. Donc c'est la fameuse société théosophique créée en 1875.
Voilà, hein, en 74, elle commence à écrire déjà hein, sur ces sujets-là dans un journal qui s'appelle Spiritual Scientist. Donc c'est un journal de spiritisme hein, dans lequel elle écrit des articles et Olcott également. Et donc en 1875, elle fonde la Société théosophique. Bon, qu'est-ce que c'est, Société théosophique? C'est une petite association de rien du tout à l'époque, autour de Olcott et puis d'elle-même et de quelques autres, pour étudier donc le rapport avec le divin, l'étude des religions anciennes, hein, des religions, et elle dira aussi créer le noyau de la fraternité humaine, au-delà des religions, au-delà des races, ce qui c'était quelque chose de très prégnant à l'époque. Hein. On était encore à une époque où la religion et le niveau social des personnes était d'une importance énorme.
Oui, alors donc cette société est vraiment très importante parce que, bon, comme tu le dis, ça commence modestement, mais il va y avoir, on sait après et encore maintenant, la théosophie, la pensée théosophique, où il y a des écoles maintenant partout dans le monde. Elle va, elle, avoir quelques grands centres, à Londres, bien sûr, à New York, dans les plus grandes capitales du monde, et elle va voyager et diffuser en fait sa pensée aussi à travers ses écoles.
Alors toujours à New York, c'est là qu'elle commence l'écriture de son premier ouvrage, Isis dévoilée. Dans quelles conditions ça s'écrit, David, ce livre?
Alors c'est très curieux, les gens qui assistent voient une femme qui change de physionomie. Et on comprend très bien que d'autres, alors elle n'est pas en transe parce qu'elle reste toujours consciente, elle explique très bien ça, que soit elle observe par sa pensée ce qui se passe, et à ce moment, c'est comme si elle devenait omnisciente, son écriture, son style d'écriture change, elle qui ne maîtrisait pas l'anglais écrit dans un anglais parfois très riche, alors dans tous les domaines, elle semble être omnisciente, savoir des choses qu'elle n'a jamais étudiées. Elle est testée par des spécialistes en diverses matières, jusque dans la paléontologie, des choses très très précises. Et en fait, ce Isis dévoilée, qui chez nous paru en français en deux tomes, un plus sur les religions et un plus sur l'étude des sciences, fourmille d'informations vraiment très très larges, très très pointues, en même temps très générales sur plein de domaines. Et elle explique en fait, elle commence à expliquer en fait qu'il y a une fameuse doctrine secrète, qu'il y a des principes, des lois sur lesquelles repose la nature, l'homme, l'univers, et qu'il y a des sages, des hommes qui sont entrés dans les arcanes en fait de ces lois, de ce mental universel. Et il y a donc des principes qu'elle commence à définir et qu'elle va définir plus précisément dans la doctrine secrète. Donc c'est l'époque où la réincarnation, c'est quelque chose d'exotique. Il faut le concevoir. La notion d'âme, c'est quelque chose de vu d'un point de vue chrétien, donc très élevé. Elle donc commence à expliquer que la réincarnation, que l'homme est un esprit à travers une âme, qu'on se réincarne à travers une personne, ce qu'on voit de prime abord chez tous, qu'il y a un processus d'évolution et qu'on est amené à se réaliser spirituellement, c'est-à-dire à réaliser ses potentiels cachés, chose qu'elle a essayé en fait de démontrer aussi par sa vie, par elle-même, et par ses connaissances, autant par son expérience que par ses contacts télépathiques. Elle va donner énormément d'informations et montrer, c'est une des pionnière peut-être dans la mythologie comparée, dans les traditions comparées. C'est avant, pour ceux qui connaissent en France, c'est Dumézil vient après. Dumézil, c'est un grand monsieur dans ce domaine-là, dans la mythologie comparée. Elle, c'est bien avant. C'est ça qui est assez incroyable. C'est la fin. On commence à l'époque simplement à découvrir diverses traditions. Hein. C'est la naissance de l'archéologie, des choses comme ça.
Le bouddhisme, l'hindouisme sont totalement inconnus en Occident.
Très très peu. Oui oui, il y a vraiment quelques spécialistes et elles trouvent même moyen chez eux dans les Isis dévoilées, par exemple, de démonter certaines fausses conceptions. Donc c'est vraiment, son livre fait vraiment un effet immense dans le monde culturel de l'époque, et même en quelques jours, il est vite épuisé, donc c'est un grand succès.
Voilà, ce qui est curieux, c'est qu'il donc il fait référence à quantité de domaines différents, et il est très précis. Il y a quantité de références, ça fait des centaines et des centaines de pages. Je crois que c'est 700 pages dans la version originale, et elle a écrit tout ça sans bibliothèque.
Voilà, alors elle utilise une capacité de clairvoyance et elle va fouiller dans ce qu'on appelait donc en début d'émission la cacha, dans cette fameuse mémoire. Et elle va y fouiller des références, des choses dans la bibliothèque du Vatican ou dans des bibliothèques privées ou alors dans des lieux où on n'a plus forcément accès, au British Museum.
Donc tu veux dire qu'en esprit, elle est capable, tout en étant dans son petit bureau à New York où elle bouge pas hein, de toute la journée, elle dort 4-5 heures par nuit, elle écrit toute la journée à toute vitesse sur un feuillet, et elle est capable en esprit d'aller au Vatican, de regarder ce qui est écrit dans un livre ultra rare et de le recopier.
Voilà, c'est ce qui est... C'est ce qui est dit. C'est ce qui. Alors moi, j'ai pas été vérifier toutes les références des livres, mais à l'époque, on n'était pas. Il fallait vraiment. Il aurait fallu physiquement réunir tous ces livres. Ça aurait été un problème majeur. Et donc, les témoins sont tous d'accord qu'elle change de physionomie. Il semblerait que ces trois maîtres hein, travaillent à tour de rôle, peut-être même d'autres.
Oui, on dit que son style même change selon le maître qui travaille à travers elle. Hein. Elle emploiera d'ailleurs à ce moment-là pour la première fois apparemment le mot adombré. Elle dira qu'elle est adombrée.
Voilà. Et donc,
qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ce n'est pas du tout un. Il va falloir qu'on coupe, hein. On va terminer là-dessus. L'adombrement, en fait, c'est le moyen d'élever sa conscience et d'entrer en contact avec une conscience plus grande, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la transe, où sur des plans beaucoup plus inférieurs, on se laisse complètement posséder, entre guillemets. Donc elle semble avoir une maîtrise totale avec ses grands esprits, ce qu'elle va appeler les mahatmas. Et en tout cas, on compare un arbre... à ses fruits, et donc si on lit ses fruits, là, Isis dévoilée, déjà, on voit qu'il y a vraiment, elle choque quand même par la profondeur de sa pensée. Même ceux qui s'y opposent sont obligés de s'armer de beaucoup d'arguments, d'éléments, pour essayer de vraiment essayer de mettre en déroute Madame Blavatsky, parce que c'est vraiment, je vous conseille ces livres qui sont encore même maintenant très, très instructif.
Alors voilà, en septembre 77, à la 46 ans, c'est la sortie d'Isis dévoilée qui est 1000 exemplaires vendus en 2 jours. C'est un énorme succès de librairie. Et en 1878, elle commence à ce moment-là un prosélytisme, on va dire, c'est-à-dire qu'elle commence à essayer de diffuser sa connaissance via des journalistes en se faisant connaître davantage, et il décide de partir en Inde en 1879. Je crois qu'on va arrêter là.
Voilà, alors on vous redonne les références du livre de Noël Richard Nafar, Elena Blavatsky ou La réponse du Sphinx. Si vous voulez des informations, si vous voulez poser des questions, on vous rappelle notre contact email sagesse@wanadoo.fr. Vous êtes dans Sagesse du Monde, c'était avec Olivier Danès et David Goulois. On se retrouve le mois prochain. Eh bien, bon mois à vous, et on se retrouve avec la deuxième partie de Madame Blavatsky, la théosophie. Merci.
Vous écoutez IDFM. Il est 18h.